Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Le présumé meurtrier de Myriam Bouindaoui a été arrêté hier, 16 mois après le meurtre de cette jeune fille de 15 ans en plein jour à Saint-Léonard. Félix Séguin, est-ce que c'est le début de plusieurs mystères élucidés en matière de meurtre sur la grande, dans la grande région de Montréal?
Ben, écoutez, on peut penser que c'est le début de la résolution de certains crimes. Espère-t-on le meurtre de la jeune Myriam Bouindaoui également. On peut pas évidemment prêter des intentions à la justice. Là, le jeune homme, là, il est accusé. Alors maintenant qu'il est accusé, il faut voir de quoi il en retournera. Mais ce qu'il faut savoir et ce qui est intéressant à préciser là-dedans, c'est que il était déjà détenu pour d'autres dossiers. Donc,
notamment de possession d'armes.
De possession d'armes, rappel des faits. Myriam Bouindaoui a été tuée alors qu'il y avait une erreur sur la personne, n'est-ce pas? C'est un peu ce qui avait fait en sorte que notre conscience s'était élevée et puis on avait commencé à trouver que la violence par arme à feu, parce qu'une jeune femme de 15 ans qui n'avait pas du tout rapport dans l'altercation dans laquelle elle a été prise, a perdu la vie, on commençait à penser que c'était c'était assez. Alors, moi ce que cette arrestation m'inspire, d'ailleurs, il faudrait peut-être aussi souligner le travail des policiers dans ça, parce que c'est d'abord ce que ça m'inspire, et ça m'inspire énormément de confiance dans ce service de police quand on ne démarre pas d'un dossier, puis qu'on réussit à trouver un suspect, puis à le traduire devant les tribunaux pour avoir la preuve qu'on a besoin pour le traduire. Alors là, je dis bravo. Bravo SPVM, bravo aux enquêteurs qui ont tout fait. Je souhaite que la justice s'en charge, évidemment, au plus vite, mais dans les règles de l'art. Mais moi, je pense que ta question est extrêmement pertinente, de dire est-ce qu'on va solutionner dans ça d'autres crimes?
Attends, je pense à Thomas Trudel, le jeune de 15 ans qui a été abattu, puis on parle de potentiellement dans une stratégie de scoring cette malheureuse habitude qu'ont les gangs de rue, que en matière d'initiation, si on veut intégrer quelqu'un dans une gang de rue, ben il va falloir qu'il aille démontrer qu'il est capable de commettre les pires crimes. Et donc, est-ce que Thomas Trudel a été victime de scoring? Moi, j'aimerais bien qu'on retrouve, qu'on mette la main au collet à cette personne-là qui a tué.
Ça serait une bonne idée pour savoir si effectivement le fameux scoring soupçonné a cours dans les rues de Montréal. Présentement, on ne peut que penser de lui. Dans le cas de Salim Touavi, c'est l'accusé dans le dossier du meurtre de Myriam. On sait qu'il y a eu un complice aussi. Il y a un homme de 26 ans qui vit est toujours au large, donc cette enquête-là n'est pas terminée. Ça a été confirmé par Salvatore Serrao, service de police de la ville de Montréal. Par contre, dans le cas justement de cet accusé, ce qu'on sait, c'est que les suspects, les adversaires, on peut penser qu'ils visaient, étaient eux dans l'auto, ou près de l'auto avec Myriam Bouindaoui. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment, mais là, je ne crois pas qu'il s'agisse de scoring dans ce cas-là, mais tu as raison de dire que si on est capable de trouver la vérité sur l'assassinat de Thomas Trudel, on saura si cette pratique a cours. Ça serait quand même assez important de le savoir, parce que c'est probablement la plus sauvage et la plus violente des pratiques criminelles si ça se confirme à avoir eu cours au Québec.
Ah, ça serait abominable. T'sais, j'essaie de me mettre à la place des parents de Thomas Trudel, leur fils qui revient une journée pluvieuse, puis on leur dit que quelqu'un est juste pointé dans la rue, puis a abattu leur fils de 15 ans, porteur tellement d'espoir. J'espère vraiment qu'on va pouvoir mettre la main au collet à ces tueurs. Et il y a aussi cette tragédie, une des pires tragédies migratoires des États-Unis. On regardait ça ce matin, puis évidemment, ça nous brise le cœur.
Ben oui, et ça nous rappelle que ces tragédies se produisent maintenant, et c'est l'angle que je voulais aborder avec toi, pas mal plus près de chez nous qu'avant,
oui.
En raison du flux migratoire, notamment des populations du sud là vers les États-Unis, mais aussi vers le Canada, parce qu'il y en a qui prennent ce chemin extrêmement dangereux, qui commence souvent en Colombie, hein, par un réseau de passeurs qui sur des pirogues passent justement ces immigrants et ces migrants irréguliers là par les voies fluviales d'abord, puis par des voies terrestres ensuite. Et quand on arrive à la frontière, on est souvent détenu dans des camps, il faut bien le noter, détenu dans des camps au Mexique présentement. Et quand on arrive à la frontière américaine, c'est là où ça se complique. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'on choisit de franchir la frontière de manière irrégulière. Alors, je suis persuadé que tu en as déjà parlé avec tes collègues ce matin, mais 46 cadavres dans une remorque à San Antonio. C'est énorme, énorme. C'est une des pires en matière migratoire des dernières années. Et il y a 5 ans, ben tu vois, moi je pense qu'il y a une prise de conscience qui est importante pour nous, parce que il y a 5 ans, ça survenait encore. Et évidemment, c'est pas les mêmes températures à la frontière canadienne, mais il est possible aussi que à terme, on ait des événements choquants, fâchants. Et c'est peut-être le temps de s'interroger aussi pour ceux qui critiquent énormément l'ouverture du chemin Roxane, puis cette prise en charge des migrants pour qu'ils puissent, au moins des migrants irréguliers plutôt. Attention, je n'utilise pas le terme illégal, hein, parce que
le terme différent.
À utiliser selon ils sont irréguliers, ils sont pas illégaux. Et c'est peut-être le moment de s'interroger aussi sur cette pratique, et peut-être d'arrêter de jeter de l'huile sur le feu du chemin Roxane, parce que si on décide de couper ces accès-là, de couper cette supervision-là pour des détenus, mais bien des migrants qui veulent se rendre au Canada, peut-être qu'on court un peu après un genre d'événement très fâchant. Je pose la question aussi, j'ai pas la réponse.
Il y avait une famille qui avait perdu la vie en essayant de traverser les frontières américaines, canado-américaines, au niveau du Manitoba en plein mois de janvier, et qui sont malheureusement morts gelés en ayant traversé dans un champ en Manitoba. Ça nous rappelle des souvenirs, évidemment. Là, ils sont morts de froid, alors que ce matin, ils sont morts de déshydratation puis de chaleur accablante.
Justement, c'est ce qui s'est passé au Texas, puis ça nous force à se tourner les yeux vers ce qui se passe aussi ailleurs en Europe, comme tu le sais, puis en Afrique du Nord, comme tu le sais, je suis en Tunisie présentement pour le boulot, puis je regardais TV5 Monde ce matin, il y a eu 1300 migrants qui ont été refoulés là des îles grecques sur la mer d'Égée. Et c'était des passeurs turcs qui tentaient de les faire cheminer vers la Grèce, et les autorités grecques les ont refoulés, alors retournés en mer d'Égée vers la Turquie ou vers un autre endroit. Majoritairement, ceux qui fuient vers la Grèce, ce sont souvent des réfugiés syriens. Il y a eu plus d'1,3 million demeures détruites dans la crise syrienne qui, by the way, là, en est presque à sa 15e année. Hein. Ça fait 15 ans que les Syriens fuient leur pays. Et quand tu vois la polarisation que suscite le débat sur l'immigration en Europe, c'est beaucoup plus tranché qu'ici, au Canada.
Moi,
j'ai toujours très, très peur à la polarisation. C'est plus violent à la polarisation de ces débats-là. Puis c'est ma petite opinion là-dessus qui vaut pas grand-chose, mais je suis quand même assez content du traitement
Il faudrait pas prendre comme exemple l'Europe en matière de débat sur l'immigration, sur la diversité, sur l'intégration. Ce n'est pas un modèle nécessairement à suivre. Un modèle particulier, puis gardons notre spécificité. C'est le moment d'être fier d'avoir une spécificité québécoise et canadienne.
Ben voilà, c'est tout dit. Merci beaucoup. Je retourne à ma chorba maintenant.
Merci beaucoup, Félix. On se parle demain. Bonjour Alexandre.
Hey, salut Yasmine. J'attends quelque chose avec impatience aujourd'hui. Grosse journée, oui, mais il y a un jugement, une condamnation, là, sentence qui doit être annoncée aujourd'hui si tout se passe bien. Et ni plus ni moins, celle de Ghislaine Maxwell, l'ex-conjointe, complice de Jeffrey Epstein, là, ce fameux financier dont la mort a lancé une pléiade de théories complotistes que j'ai suivies depuis des années.
Sans suicide, entre guillemets.
Ouais, son suicide en prison, des gens qui pensent qu'il ne s'est pas suicidé. Dans tous les cas, un suicide extrêmement mystérieux dans lequel, tout d'un coup, il n'y avait plus de caméra, il n'y a personne qui regardait, les gardes ont tourné les yeux parce qu'il a dit qu'il appelait sa mère. Une histoire absolument mystérieuse. Malgré tout, les rapports des coroners là, sont tous unanimes sur le fait qu'il s'est suicidé. Mais là, c'est sa complice, hein, Ghislaine Maxwell, qui, elle, en court en ce moment, ni plus ni moins là que 55 années de prison pour ses complicités, donc dans des crimes sexuels, la plupart sur des mineurs, même au cours des années. Et là, à 60 ans, donc, c'est la copette de 55 ans de prison. C'est l'équivalent d'une condamnation à vie, elle ne sortirait jamais. Puis du côté des procureurs, on dit là qu'on veut minimum 30 ans de prison, donc ça lui donnerait 90 ans quand même. Elle serait pas mal vieille lorsqu'elle pourrait peut-être sortir de prison. On attend le jugement là aujourd'hui. Ils ont un dernier petit recours légal en ce moment. Quel est-il? C'est qu'en prison, il la surveille 24 heures sur 24 comme si elle était à risque de suicide.
Oui.
Même si les évaluations psychologiques en ce moment ne disent pas qu'elle est suicidaire ou quoi que ce soit, on a juste vraiment peur qu'il lui arrive la même chose qui est arrivée à Epstein où on a...
Et ses avocats dénoncent cette surveillance, le fait qu'elle soit épiée continuellement pour risque suicidaire.
C'est ce qu'on dénonce et on demande là un report du prononcé de condamnation là en raison de ce fait-là. Donc avoir ça va être accepté aujourd'hui, sinon on devrait connaître au cours de la journée sa sentence enfin. Donc ça va disons amener une conclusion à une longue saga dont il reste encore là, tellement de mystères et de dossiers non réglés. On rappellera que le prince Andrew hein, de la royauté britannique, qui est désormais pas mal déchu de ses fonctions, qui lui signait 15 février dernier un accord à l'amiable de 13 millions de dollars selon le Daily Telegraph avec l'une des victimes. Donc ça
lui qui a brillé par son absence dans les festivités du jubilé.
Mais non, mais il a attrapé la COVID.
Ben oui,
au
ça
dernier
tombe bien.
Moment.
Au dernier moment.
La journée même.
Ça tombe bien.
C'est génial.
Ça, c'est une COVID bien placée.
Exact.
Alors, Alexandre, je vais te laisser suivre le prononcé de ce jugement-là. On a hâte d'en apprendre plus et on va probablement en parler demain.
Salut.
Merci à tous nos auditeurs d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, 29 juin 2022.